France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles et en partenariat avec le journal L'Équipe, USA, URSS, la guerre froide sur le parquet ou comment les outsiders soviétiques ont perdu puis remporté le titre olympique de basket contre les favoris américains. Le 9 septembre 1972, à Munich, alors que l'équipe des USA mène d'un point et qu'il reste une seconde de jeu, les soviétiques ratent leur dernier tir. La sonnerie retentit, les Américains explosent de joie, une victoire olympique classique. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'entraîneur de l'URSS, Vladimir Kondrachine, proteste et assure à l'arbitre que le temps mort qu'il a demandé n'a pas été pris en compte. Après quelques échanges houleux, une décision inhabituelle est prise, reprendre le match en donnant cette fois 3 secondes aux soviétiques. Et là, tout change. Les outsiders marquent, le titre change de main et surtout, pour la première fois dans l'histoire du basket, l'ogre américain est tombé. Ce qui n'a rien d'anodin et qui dépasse les enjeux du sport, car nous sommes là en pleine guerre froide et de surcroît, 4 jours après l'attentat des fédéines palestiniens contre la délégation israélienne. Il n'y a pas de connexion, ni même de comparaison entre les deux affaires, mais elles se sont quand même déroulées lors de ces JO de Munich qui ne laisseront pas que des souvenirs sportifs. Notre invité aujourd'hui, Arnaud Lecomte, journaliste à l'équipe, spécialiste de basket. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire, Guillaume Malembrasse, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Stéphane Koum.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Août 1972, Munich. Dans les allées du parc olympique au nord de la ville, l'atmosphère est légère. Le soleil oblique de fin de matinée fait scintiller les pelouses et des dizaines de milliers de visiteurs en goguette convergent vers le grand stade, l'Olympiastadion. Car c'est ici que doit se tenir un événement d'envergure planétaire, la cérémonie d'ouverture des 20e Jeux Olympiques d'été. 27 ans après la fin de la guerre, l'Europe célèbre la joie de la paix et la prospérité retrouvée. C'est l'heure des pantalons pattes d'éléphant, des Renault 5 orange et des tables en formica. Un monde en couleur, débarrassé, pense-t-on, de ses tentations autoritaires. D'ailleurs, le choix de Munich est loin d'être anodin. Place forte du nazisme, la capitale bavaroise souhaite profiter de l'événement pour solder les comptes et montrer le visage apaisé d'une RFA florissante, tournée vers l'avenir et désarmée, jusqu'à sa police pour ces JO, situation qui a peut-être facilité la tâche des terroristes palestiniens. Symbole de ce renouveau en tout cas, l'Olympiastadion. Cathédrale avant-gardiste à la structure d'acier, l'endroit semble regarder le 21e siècle avec envie. Sous les canopées, dans les gradins, 80 000 spectateurs prennent place. Tous sont prêts à acclamer les 7 000 athlètes venus du monde entier, réunis autour des valeurs olympiques chères au baron de Coubertin. Compréhension mutuelle, solidarité, fair play.
Au nom de tous les concurrents, je promets
dass wir in fairem Wettstreit an den Olympischen Spielen teilnehmen.
Nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux.
That we will take part in these Olympic Games
und die für sie geltenden Regeln achten und befolgen werden.
Respectueux des règlements qui les régissent. Et désireux d'y participer,
respecting and abiding by the rules which govern them.
À 14h vient le premier événement symbolique, l'entrée en piste des 121 délégations. Au son d'une fanfare, elles entament la traditionnelle procession. Afghanistan, Algérie, Argentine, par ordre alphabétique, le défilé commence dans l'excitation sous les encouragements de la foule. Après une heure de ce spectacle répétitif, arrive la fin du cortège avec la lettre U. Et c'est ici que se trouvent deux délégations particulièrement attendues, deux nations rivales, à l'histoire commune houleuse, l'URSS et les États-Unis. Anciens alliés de circonstance contre les forces de l'Axe, les deux pays sont pris désormais dans un conflit à la fois silencieux et terrifiant, entre menaces politiques, propagande culturelle et dissuasion nucléaire, la guerre froide. Combat idéologique, capitalisme contre communisme, mais aussi démonstration de force militaire, la guerre froide rythme l'actualité géopolitique depuis près de 30 ans. Pour les deux superpuissances, les JO représentent donc bien plus qu'une simple confrontation sportive. Ils sont l'occasion, pour l'un comme pour l'autre, d'affirmer sa supériorité culturelle, la supériorité de son modèle. D'ailleurs, avec 400 athlètes de chaque côté, les deux délégations sont les plus importantes de la compétition, et pour de nombreux observateurs, elles sont les grandes favorites du tableau des médailles. À 15h, quand l'acronyme URSS résonne dans le stade, CCCP en russe, tous les regards se tournent vers le porte-drapeau, le lutteur Alexander Medved. Derrière lui, une imposante colonne d'athlètes marche à l'unisson. Habillés de leur costume noir, ils ressemblent à un régiment qui part à la guerre. D'ailleurs, avant leur arrivée à Munich, les participants ont reçu une préparation quasi-militaire de la part de l'organisme des jeunesses communistes, le Komsomol. Le message qui leur a été martelé est très clair. S'ils sont ici, sur les anciennes terres nazies, c'est pour faire briller les valeurs de l'international socialiste. Leur attitude se doit donc d'être exemplaire. Et il faut à tout prix se démarquer de la jeunesse occidentale, en particulier celle des États-Unis, obsédée par la drogue, la musique et le sexe, comme le raconte ce reportage de propagande appelé « L'attentat contre la culture ».
Dans les caves des concerts pop ou les festivals de rock, la drogue acoustique démolit les lois de l'État. Dans un monde bourgeois sans issue, c'est peut-être un moyen pour les jeunes de fuir leurs dures conditions sociales. Mais ici, il n'y a rien à démolir. Leur idéologie peut se résumer ainsi. Soyez libres dans l'amour et le sexe. Donnez votre âme au diable. N'ayez pas peur du LSD. Frères et sœurs, buvez, réjouissez-vous.
Dans l'URSS des camarades Brejnev, ce pays où les plaisirs sont suspects, sport et culture ne sont jamais bien loin du pouvoir. D'ailleurs, en cette année 72, alors que l'État soviétique célèbre ses 50 ans d'existence, la délégation arrive avec un objectif symbolique, rapporter 50 médailles d'or à Moscou. Quelques minutes après le passage des Soviétiques, vient donc celui des Américains. Pour porter le drapeau, les autorités olympiques américaines ont fait le choix d'une transfuge, Olga Fikotova. Née en Tchécoslovaquie, l'athlète a traversé l'Atlantique quelques mois plus tôt, avant d'acquérir la citoyenneté américaine. Bref, le symbole parfait d'un pays accueillant, désirable et joyeux. Derrière elle, 400 athlètes lui emboîtent le pas. Vêtus de leur costume rouge bariolé, tout sourire, ils apparaissent détendus, aux antipodes en tout cas de leurs homologues de l'Est. Pourtant, eux aussi sont soumis à une propagande quotidienne. Même si les grandes heures du macartisme sont passées, la fièvre anticommuniste est encore très importante de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, dans le cortège, parmi les athlètes, ils sont peut-être quelques-uns à se rappeler les refrains anti-soviétiques qui passent en boucle sur les télés américaines.
Pour reconnaître un communiste, on ne peut pas se fier à l'apparence physique. S'il se définit lui-même comme un communiste, dans ce cas, mieux vaut le croire. Si quelqu'un défend constamment les valeurs et les idées du communisme, alors c'est sans doute un communiste.
Plantés sur la pelouse au milieu du stade, les soviétiques observent leurs rivaux avec appréhension. Alors, capitalisme contre communisme, qui va remporter la bataille? Vers 17h, après le passage des dernières délégations, Günther Zahn, champion d'athlétisme allemand, allume la flamme et le duel peut enfin commencer. En dehors du tableau des médailles, il n'y a qu'une seule discipline collective permettant une confrontation directe entre les deux nations, c'est le basket. Né aux États-Unis, ce sport est également très populaire dans tout le bloc communiste. Pas étonnant qu'USA et URSS figurent parmi les grands favoris de la compétition. Naturellement, les Américains ont l'avantage. Depuis que le basket est devenu un sport olympique, en 1936, l'équipe nationale a remporté tous ses matchs et raflé les 7 médailles d'or. Il faut dire que, de l'autre côté de l'Atlantique, le basket est une véritable institution, avec un championnat national appelé NBA, le fameux NBA, qui génère des dizaines de millions de dollars tous les ans. Pourtant, aucune star des Los Angeles Lakers ou des Boston Celtics n'est présente à Munich. Le règlement olympique interdit la participation de sportifs professionnels. Alors, comme pour chaque édition, l'équipe est constituée de jeunes joueurs qui évoluent dans le championnat universitaire. Avec une moyenne d'âge d'à peine 21 ans, c'est l'équipe la plus jeune de la compétition. Doug Collins, Dwight Jones, Tom McMillan, malgré leur manque d'expérience, tous sont arrivés en Allemagne avec une seule ambition, remporter l'or. Le tournoi se disputera sur le parquet de la salle Rudi Seldmayer. D'une capacité de 8000 places, l'endroit doit accueillir les 60 matchs opposant les 16 équipes engagées. Celles-ci sont réparties en deux poules. Les deux meilleurs de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales. Pour les Américains, le tournoi commence tranquillement. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, le 27 août, ils se débarrassent facilement de l'équipe de Tchécoslovaquie par 66 à 35. Pourtant, dès le premier jour, l'ambiance est tendue dans le vestiaire. En cause, la stratégie conservatrice et les méthodes peu orthodoxes du coach, le très rustique Hank Iba. Briscard de 68 ans, le coach Iba est pourtant une légende du basket. Artisan des deux dernières victoires olympiques, il jouit d'une réputation d'homme dur, plus proche d'un général d'armée que d'un entraîneur sportif. D'ailleurs, pour le stage de préparation, il a choisi d'emmener ses joueurs sur les lieux du plus grand traumatisme militaire de l'histoire du pays, Pearl Harbor. Et là, il fait subir à son groupe un entraînement digne des Marines, au point de se brouiller avec deux joueurs clés de l'équipe, Sven Aita, mais surtout le petit prodige de l'UCLA, Bill Walton. Fatigués par la brutalité de l'entraîneur, les deux hommes ont fini par jeter l'éponge. Comme l'explique Walton dans le documentaire 3 secondes de chaos, diffusé sur la chaîne américaine ESPN.
Pour la première fois de ma vie, j'ai été exposé à un coaching négatif, à la réprimande systématique des joueurs, aux insultes, aux menaces envers ceux qui n'étaient pas assez performants.
Étrangement, il y a une équipe engagée dans le tournoi qui joue avec un style plus américain que les Américains, c'est l'URSS. À la différence de leurs rivaux, l'équipe soviétique dispose d'un système de jeu rodé, mais aussi d'un vrai leader, Sergueï Belov. À 28 ans, l'arrière du CSKA Moscou est alors au sommet de son art. D'ailleurs, dès leur entrée dans la compétition, quelques heures à peine après les USA, les soviétiques infligent une correction à l'équipe du Sénégal, 94 à 52. En réalité, cette maîtrise ne doit rien au hasard. Depuis l'introduction du basket en URSS, au début des années 50, le pouvoir central moscovite fait tout pour mettre l'équipe nationale dans les meilleures dispositions, quitte à flirter parfois avec la triche. Ainsi, pour contourner la règle olympique, les autorités ont mis en place un système appelé « amateurisme d'État ». De fait, comme Sergueï Belov, de nombreux athlètes du championnat russe occupent en parallèle des postes au sein de l'armée rouge, mais des postes fantômes, quasi des emplois fictifs. Professionnels dans les faits, mais amateurs sur le papier, ils peuvent maintenir un haut niveau de performance tout en restant dans l'équipe nationale. Grâce à cette politique astucieuse, l'URSS s'est imposée comme une puissance émergente du basket mondial. 11 fois championne d'Europe et même une fois championne du monde en 67. Au niveau olympique, le bilan est plus nuancé. 5 médailles en 5 participations, certes, mais aucune en or. Et surtout, jamais ils n'ont remporté le moindre match contre l'adversaire américain. Alors, pour cette édition 72, le pouvoir communiste a décidé d'aller encore plus loin et de mobiliser tous les moyens de l'État, à la limite de l'espionnage. Comme l'explique le journaliste Jim Riordan, toujours sur ESPN.
Il y avait deux ou trois coachs de basket soviétiques qui travaillaient directement pour l'ambassade à Washington. Ils étaient là spécialement pour étudier tous les joueurs de notre équipe. Quand les Russes ont voulu enseigner le tir en extension, ils ont décidé de copier Jerry West. Il est devenu leur prototype. Ils disaient « c'est comme ça qu'il faut faire ». Ils l'ont copié et ils ont fait ça bien.
Ainsi, pendant les mois de préparation au tournoi, le coach Vladimir Kondrachin a remodelé le style de jeu de l'équipe en s'inspirant largement de l'adversaire américain. Agressif, rapide, précis. Après leur première victoire contre le Sénégal, les Soviétiques remportent toutes leurs rencontres de poule et se qualifient facilement pour les demi-finales. Côté américain, c'est également à sans faute. Malgré leur jeunesse, les tensions avec le coach esclavagiste et un jeu plus défensif que d'habitude, ils se qualifient sans problème pour l'autre demi-finale. Dans la presse sportive, on se prend alors à rêver d'une finale USA-URSS, la guerre froide sur le parquet. L'affiche est alléchante. Mais deux jours après la fin des matchs de poule, le 5 septembre, c'est un autre conflit qui s'invite au jeu. Ce matin-là, à l'aube, un commando palestinien pénètre dans le village olympique et prend en otage une vingtaine d'athlètes israéliens. Le terrorisme fait vaciller la flamme. Le sang s'apprête à couler sur le bitume de Munich. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, aujourd'hui la guerre froide au JO.
Affaires Sensibles sur France Inter.
Vers 5h30, 6h ce matin, un commando palestinien, fort de 5 à 10 hommes, a pénétré dans le village olympique en escaladant les grillages et les barrières. Les très rares témoins de cette intrusion ont pensé qu'il s'agissait d'athlètes rentrant d'une joyeuse nuit dans les nightclubs de Munich. Quelques instants plus tard, le commando sortait des mitraillettes et peut-être des explosifs de leur sac de sport et attaquait le bâtiment de la délégation israélienne où logeaient 27 athlètes et entraîneurs. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, qui s'opposait à leur entrée et en blessaient grièvement un autre. Ce blessé serait mort en fin de matinée. Prévenu par deux femmes de ménage qui avaient entendu des coups de feu, la police allemande cernait immédiatement le bâtiment israélien et isolait du monde le village olympique.
Munich, 5 septembre 1972. Dans le village olympique, le temps s'est arrêté. voilà quelques heures en effet qu'un commando de 8 Palestiniens retire en otage 21 membres de la délégation israélienne. Le groupe d'insurgés demande la libération de 236 militants palestiniens détenus en Israël, ainsi que de deux militants de la fraction Armée Rouge, Andreas Bader et Ulrike Meinhof. Face à l'urgence de la situation, l'armée est appelée en renfort et les compétitions sont suspendues. Au sein de l'équipe de basket américaine, tout le monde est sous le choc. Enfermés dans leur chambre, à deux pas des appartements israéliens, les athlètes assistent au drame, impuissants, comme le raconte l'un des joueurs, Tommy Burleson, au micro de SPN.
Un soldat allemand est venu vers moi et il m'a dit « Les Palestiniens s'apprêtent à sortir les otages israéliens ». Pendant que les Israéliens passaient à côté de nous, j'entendais leurs pas et leurs murmures. Le soldat allemand se tenait entre nous et eux, et à ce moment, j'ai commencé à prier pour moi. J'aurais vraiment dû prier pour eux.
Malgré les prières, la crise se termine dans un bain de sang. 11 athlètes israéliens et un policier allemand sont tués, tandis que 5 Palestiniens sont neutralisés et 3 capturés. Le lendemain, 6 septembre, le village olympique se réveille dans un brouillard de larmes et de sidération. Que faire? Pour les responsables du comité olympique, hors de question d'arrêter les Jeux. Cela reviendrait à donner raison aux terroristes. Et au passage, un manque à gagner financier considérable. Alors, une décision est prise. Organiser le jour même une cérémonie commémorative. Après sa tenue, les épreuves pourront reprendre, et elles reprennent, tant bien que mal. C'est le cas des demi-finales de basket. Deux jours après la mort des Israéliens, le 7 septembre, les États-Unis battent l'Italie devant un public encore groggy, tandis que les Soviétiques, eux, gagnent de justesse contre la redoutable équipe de Cuba. Malgré l'ambiance de mort, la médaille d'or se jouera donc entre les deux meilleurs ennemis, USA et URSS. L'affiche tant attendue aura bien lieu. Pour les Soviétiques, ce match est l'occasion rêvée de conjurer le sort. Battre enfin l'oncle Sam à son propre jeu serait non seulement une victoire sportive, mais aussi politique. Moscou prouverait au monde que le communisme est un système conquérant, capable de vaincre n'importe quel adversaire dans n'importe quelle condition. De leur côté, les Américains semblent fébriles. Malgré leur statut d'archi-favori, ils savent que cette équipe soviétique sera difficile à manier. D'autant que l'ambiance dans les vestiaires s'est encore dégradée. Entre les traumatismes causés par la prise d'otages et les préceptes de jeu périmés du vieux coach, Iba, les joueurs abordent la finale avec inquiétude. Comme le montre cette déclaration de ce même coach à la veille du match.
Je suis inquiet à cause de leur jeunesse et de leur manque d'expérience internationale. Mais je crois pas qu'ils seront en colère si on perd.
Alors, Ankiba a-t-il raison d'être inquiet? Réponse le lendemain, 9 septembre. À 23h40, les deux équipes pénètrent sur le parquet de la salle Rudi Selmayr. L'improbable horaire a été monnayé par la chaîne de télé ABC contre 5 millions de dollars pour accommoder les téléspectateurs américains. De l'autre côté du rideau de fer, à Moscou, il est presque 1h du matin. Malgré cette heure tardive, de nombreux gradés du parti trépignent devant leur télé. Grâce à ces nombreuses victoires, la délégation soviétique a déjà empoché 49 médailles d'or. Donc, si l'équipe gagne ce soir, l'objectif de 50 sera atteint. Devant 8000 spectateurs chauffés à blanc, l'arbitre de la rencontre, le Brésilien Renato Righetto, lance le chronomètre. À 23h45, la sonnerie résonne dans l'arène. Voilà, c'est parti pour demi-temps de 20 minutes chacune. Pas vraiment conquérants mais favoris, les basketteurs américains se font pourtant surprendre dès les premiers échanges. Inhibés par leur coach, privés de fantaisie et d'un vrai leader technique, ils commencent sur un faux rythme. Face à eux, en revanche, les soviétiques sont en pleine forme et ils attaquent dès les premières minutes. Sergei Belov semble particulièrement conquérant. Grâce à son tir en extension, tout en souplesse, il marque 14 des 19 premiers points soviétiques. À la mi-temps, l'équipe au maillot rouge dispose d'une avance de 5 points et mène 26 à 21. La deuxième période débute sur le même rapport de force. Plus rapide dans l'entrejeu et plus adroit devant le panier, Beloff et sa bande mènent de 10 points après 30 minutes de jeu. Dans le stade, c'est la stupeur. Si les Américains venaient à perdre, ce serait leur première défaite en 63 matchs olympiques. Mais subitement, sans que l'on sache vraiment pourquoi, ils se réveillent et se lancent dans une intense phase de pressing. Après plusieurs récupérations opportunistes et quelques contre-attaques menées par l'intrépide Doug Collins, ils recollent au score en quelques minutes seulement. À 15 secondes de la fin, l'avance des Soviétiques a fondu 49 à 48. Un petit point d'avance avec engagement à suivre. Alors pour gagner, il leur suffit de conserver la balle. Mais c'est sans compter sur ce satané Doug Collins. À l'affût, l'Américain réussit à intercepter une passe d'Alexander Beloff. Il raconte la suite au micro de ESPN.
On perdait d'un point. Les Soviétiques avaient juste à gérer, mais ils ont tenté leur chance. Un de leurs joueurs a pris le ballon. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il allait faire une longue passe jusqu'à notre panier. J'ai anticipé et j'ai réussi à intercepter la balle. La seule chose que j'avais en tête, c'était d'aller marquer.
Alors qu'il prend appui pour aller marquer, Collins est déséquilibré par un défenseur soviétique. Sa tête frappe violemment le parquet. Il ne le sait pas encore, mais cette chute marque le début d'une série d'événements et de dysfonctionnements qui vont bouleverser à jamais l'histoire du basket.
3 secondes à jouer. Doug Collins s'est fait mal à la réception. Il est allongé au pied du panier. Doug Collins de l'équipe américaine, joueur de l'université d'Illinois, bien secoué.
Inconscient, Collins se retrouve vite entouré par ses coéquipiers. Et logiquement, l'équipe obtient 2 lancers francs. Si un seul passe, les Américains et les Soviétiques seront à égalité. Si les 2 rentrent, alors les Américains auront l'avantage. Irrespirable.
J'ai atterri sur le dos et ma tête a tapé le sol. J'étais KO pendant une dizaine de secondes. Je me souviens que le coach et mes coéquipiers sont venus autour de moi et l'un d'eux a fait « Coach, qui va tirer les lancers francs ?» Et là, le coach a répondu « Si Doug se relève, il le fera. » À ce moment, je me suis dit que je n'avais pas le droit de les laisser tomber.
Après quelques instants, Collins reprend ses esprits. Malgré sa violente chute et la pression énorme qu'il a sur les épaules, il décide d'embrasser son destin et de tirer lui-même les 2 lancers francs.
Panier, ça rentre. Doug Collins égalise. Je n'ai pas vu l'arbitre siffler la faute, mais Doug Collins vient d'offrir la victoire aux Américains. Les États-Unis dominent 50 à 49. Il reste plus qu'une seconde à l'horloge.
Pour l'équipe américaine, le hold-up est parfait. Après avoir été devancé pendant 39 minutes et 45 secondes, voilà qu'il mène enfin au score. Et il ne reste plus que 3 secondes au tableau d'affichage. Autant dire que la médaille d'or leur tend les bras. Du côté du bord soviétique, c'est la panique. Le coach, Kondrachin, en particulier furieux. Le temps mort qu'il a réclamé entre les 2 lancers francs de Collins n'a pas été pris en compte. Et pourtant, il l'assure, il a bien appuyé sur la télécommande, juste après le premier shoot de l'arrière américain. Bon, la stratégie est bien connue. Demander un temps mort entre 2 lancers francs permet non seulement de perturber le tireur adverse, mais aussi de mettre en place une stratégie offensive si le ballon est récupéré. Dans la confusion, les joueurs soviétiques remettent tout de suite le ballon en jeu. Gêné par ce diable de Tom McMillan, l'arrière Ivan Edeshko fait une passe à Sergei Beloff qui propulse le ballon sous le panier américain. Mais au moment où le géant Alexander Beloff s'en empare, il est déjà trop tard. Le match est terminé. Les USA sont donc champions olympiques. Des années plus tard, Sergei Beloff se souviendra de ce moment.
À ce moment-là, j'étais comme dans un cauchemar, comme quelqu'un qui va mourir et qui voit défiler sa vie. Tous nos entraînements, tout le travail reviennent en mémoire. Toute notre existence est anéantie.
Alors que les vainqueurs se congratulent, le coach Kondrachin explose de rage. Et il se retourne vers la table de marque et il commence à vociférer. Bientôt, une dispute éclate entre le staff soviétique et les arbitres. Dans la cohue, un officiel descend des gradins jusqu'à la table de marque, un certain Renato Williams Jones, le très despotique secrétaire de la Fédération internationale de basket. Et tout de suite, il prend les choses en main et il oblige l'arbitre à donner le temps mort aux soviétiques, ainsi que 3 secondes de plus au compteur. L'affaire est à peine croyable. Un responsable de la fédération est en train de court-circuiter de finale olympique. Et ça marche. L'arbitre décide de rappeler tous les joueurs sur le terrain et d'ajouter 3 secondes au chronomètre. Encore euphorique, mais sonné, les Américains acceptent la décision sans broncher. Une fois les joueurs en place, le jeu reprend avec 3 secondes au compteur, donc. Comme pour la précédente tentative, Ivan Ledesko est chargé de la relance. Sauf que cette fois, Tom McMillan n'est plus face à lui. Il a reculé de plusieurs mètres suite à une demande de l'arbitre. Et alors le défenseur rouge en profite pour lancer le ballon à l'autre bout du terrain, tout droit sur Alexander Belov.
Il reste 3 secondes dans cette finale. Il règne une grande confusion tout autour du terrain. L'arbitre avance. ...49 pour l'URSS, 50 pour les États-Unis. 3 secondes. Longue passe pour Alexander Belov. Il marque. Nous sommes champions olympiques.
Pour la 2e fois de la soirée, la sonnerie retentit. Mais cette fois, c'est à peine croyable, c'est l'équipe de l'URSS qui est championne olympique. Alors, Belov, Ledesko et les autres explosent de joie. Les Américains, eux, sont effondrés. Certains protestent, bien sûr, mais d'autres se tiennent le visage. Dans les gradins, le public n'y comprend plus rien. C'est comme si on venait de vivre 2 réalités parallèles successives. D'abord une victoire américaine, puis une victoire soviétique. Quelques minutes après la fin du match, l'équipe américaine décide de faire appel. Le lendemain, 10 septembre, le jury d'appel examine la plainte. Composé de 3 membres venus du Bloc de l'Est et de 2 occidentaux, il confirme sans surprise le résultat final. Révoltés, les Américains boycottent la remise des médailles. Connu aux États-Unis comme la plus grande injustice de l'histoire olympique, le match est entré dans la légende soviétique. C'est la 50e médaille d'or de la délégation. Premier au tableau des médailles, vainqueur des Américains, les athlètes sont accueillis en héros à leur retour à Moscou. Pourtant, malgré cette domination sportive, leur système politique se fissure peu à peu. 20 ans après la victoire de Munich, le 26 décembre 1991, l'URSS s'effondre pour de bon. Et une constellation de nouveaux pays émerge, et avec eux, 2 nouvelles équipes nationales. Aujourd'hui, les médailles d'argent des Américains sont toujours stockées dans la salle des coffres d'une banque suisse à Lausanne. Certains, comme Tom McMillan, le malheureux défenseur, n'ont toujours pas abandonné l'idée d'un recours, à l'image de sa dernière action en date, en 2012, un courrier officiel à Jacques Roche, le président du CIO. En vain. D'autres ont même fait inscrire dans leur testament qu'aucun de leurs descendants ne pourrait réclamer la médaille d'argent. De son côté, Ivan Ledesko, le passeur victorieux, a cette phrase qui résume parfaitement la situation. « Toute ma vie tenait en 3 secondes. Oui, toute ma vie. Et quand les gens me posent des questions, eh bien je leur donne une cassette du match. » Cassette, DVD ou vidéo, vidéo en ligne même, quel que soit le support. La conclusion est la même. Le basket est un sport qui se joue à 5 et à la fin, c'est l'Amérique qui gagne. Sauf exception, la preuve. Aujourd'hui, États-Unis, URSS, la guerre froide sur le parquet lors des Jeux Olympiques de 1972 à Munich, dont nous parlons avec notre invité Arnaud Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, spécialiste de basket. Je rappelle que cette émission est en partenariat avec l'équipe et vous êtes l'auteur d'une enquête sur cette finale de basket qui paraît aujourd'hui chez nos confrères de l'équipe. Donc, alors, puisqu'on parle de journaliste, un ami journaliste sportif d'une grande chaîne de télévision me disait hier: l'histoire que tu vas raconter demain est la plus grande histoire de l'histoire du basket. Vous partagez ?
Oui, je crois, oui. pour avoir travaillé pas mal sur la question ces derniers temps, effectivement, elle porte beaucoup de mystique. Évidemment, le contexte géopolitique de l'époque, vous l'avez rappelé. Beaucoup de... Bon, après, elle concentre aussi, évidemment, des questions purement basket techniques avec ces fameuses trois dernières secondes.
On va reparler, bien sûr.
Qui ont duré 5 minutes et qui sont, peut-être le fait de jeu le plus mystérieux encore 52 ans après même de l'histoire du basket. Et puis c'est une finale olympique, quoi, c'est le match le plus important de tous finalement, donc, et notamment en basket où le tournoi olympique a vraiment une aujourd'hui le basket, on verra cet été aux Jeux de Paris, le basket est quasiment le sport, est devenu depuis quelques années probablement le sport collectif numéro 1 aux
Jeux
Olympiques.
C'est l'athlétisme en premier et après dans les sports collectifs le basket, c'est ça ?
Et tout près de l'athlétisme aujourd'hui.
Tout près de l'athlétisme.
Oui, par son rayonnement international bien sûr.
Alors vous avez remonté le fil de ces 12 médailles d'argent donc, qui n'ont jamais été réclamées par les Américains. Est-ce que vous avez fait quelques découvertes ?
Ouais, alors pas spécialement moi, mais j'ai en effet, en cherchant un petit peu, on s'est aperçu il y a 2 ans que à l'occasion du 50e anniversaire de cette fameuse finale, qu'un média américain avait cherché à savoir pourquoi les 12 médailles n'étaient plus que 7 officiellement. J'ai demandé confirmation il y a quelques jours au Comité international olympique qui m'a répondu qu'en effet, le CIO dispose de 7 des 12 médailles d'argent qui n'ont jamais été acceptées, donc, par l'équipe américaine, battue dans les circonstances que vous avez rappelées, lors de la finale de 72. 7 et non pas 12, que sont devenus les 5 autres.
J'allais vous le demander.
Moi, je l'ai demandé au Comité international olympique, qui m'a répondu que ces 5 médailles avaient été conservées par 2 personnages allemand du comité d'organisation de l'époque et qu'elle n'avait jamais été restituée au CIO il y a 30 ans comme l'avaient été les 7 autres. Pourquoi ? Mystère. Les 2 personnages qui auraient conservé ces 5 médailles à l'époque ont disparu. Le média américain dont je vous parlais s'est enquéri de savoir qui, dans la famille de ces deux personnages, pouvait avoir une idée de ce qu'étaient devenues ces médailles. On n'a pas de réponse. Elles sont probablement perdues pour tout le monde, ou alors dans un placard. On les retrouvera un jour. Toujours est-il que ça ajoute, je crois, beaucoup de mystère, s'il en fallait encore, à cette histoire.
Vous parlez aussi d'une rencontre qui a eu lieu en 2012. Les anciens joueurs, que vous appelez les 12 hommes en colère, ça, sont réunis autour d'une table avec un journaliste de la chaîne ESPN. Dans quel état d'esprit sont-ils après cette finale perdue ? Donc on est 40 ans après la finale perdue. Je vous dis ça parce que j'ai la tentation de rapprocher ça de ce qu'ont vécu les footballeurs français en 1982 à Séville, quand ils sont volés par l'arbitre allemand, quand Batiston est envoyé dans le coma par le gardien allemand Schumacher. Et j'ai revu des reportages où ces joueurs-là, Giresse, Tigana, disent « Mais jusqu'à notre dernier souffle, la blessure ne se cicatrisera pas. » C'est le cas pour les Américains ?
Je pense que oui, c'est le même état d'esprit. Alors, là, c'est renforcé par le fait qu'il y a une question un peu matérielle, à savoir les médailles olympiques. Rappelez-vous de la fin de cette finale, dans la confusion totale, avec un ascenseur émotionnel, comme on dit de nos jours. En l'occurrence, les Américains ont gagné une première fois, puis ont été battus quelques secondes plus tard. Ils sont dans le vestiaire, ils sont dévastés. C'est fondamental dans la compréhension de cette histoire. C'est la première fois de l'histoire olympique, les Américains échouent au jeu. C'est leur sport, vous l'avez rappelé aussi, ils l'ont inventé, ils l'ont codifié. C'est face à l'URSS qui est à ce moment-là l'ennemi, le rival absolu et au-delà du sport d'ailleurs. Donc effectivement, ils se réunissent dans le vestiaire, ils sont dévastés et là ils décident de refuser leur médaille. Ils ne vont pas sur le lendemain, il y a les appels réglementaires et ensuite il y a évidemment la cérémonie protocolaire. C'est la 50e médaille d'or soviétique, vous l'avez dit. Il n'y a personne sur la marche numéro 2 du deuxième. C'est la première fois, et à ma connaissance, c'est la seule fois de toute l'histoire des Jeux Olympiques, toute discipline confondue, qu'on refuse une médaille, on refuse de venir récupérer sa médaille. C'est assez... c'est donc inédit. Et 40 ans après, ils n'ont toujours pas digéré, ils n'ont toujours pas été chercher leur médaille, ils ont refusé les approches. Le CIO est allé, paraît-il, des dizaines de fois leur proposer de récupérer enfin leur médaille un jour ou l'autre, parce que estimant que le temps passait et que peut-être la plaie allait se refermer. Pas du tout. 40 ans après, ESPN, dont vous l'avez dit, leur propose une petite réunion commémorative pour les besoins d'un film à l'américaine, un peu scénarisé, on se retrouve, on se met autour d'une table, on a 75 ans bientôt, puis on se remémore tout ça, on a encore la larme à l'œil. Sincèrement, je ne suis pas en train de dire qu'ils jouent un jeu, mais ils sont encore dans le déni complet, et à la fin de cette petite réunion commémorative, le cinéaste plus précisément d'ESPN leur propose de refaire un vote pour savoir si enfin, 40 ans après, pardon, ils vont enfin accepter cette médaille. Et le vote est totalement unanime, c'est non. Il y en a deux qui ont effectivement formalisé dans leur testament que leurs descendants, leurs héritiers ne pourraient pas récupérer cette médaille, quoi. C'est dingue.
C'est une douleur d'abord professionnelle et sportive. Alors, effectivement, en face, c'est l'Union soviétique, on est en pleine guerre froide, mais ce que ressentent les joueurs américains, c'est d'abord une injustice sportive, j'imagine, bien plus que géopolitique.
Tout à fait, hein, tout à fait. Il faut jamais perdre ça de l'esprit. En effet, avant de penser à on a été floué parce que il y a des questions de complot, de géopolitique, de un jury d'appel, vous l'avez dit, il y avait trois représentants du bloc, soviético de l'Est, et un Cubain notamment, un Polonais, un Bulgare. Et de l'autre côté, effectivement, il y a cette injustice sportive parce que elle est là, elle est prégnante. Pourquoi ? Parce que ce sont des sportifs, ce sont des athlètes qui vont ensuite faire une carrière professionnelle. Pour la plupart, vont jouer en NBA. Et ces joueurs-là estiment avoir été tout simplement volés par l'arbitre. Alors, pour des raisons, effectivement, on peut y penser sous-jacentes, peut-être politiques, allez savoir. Personne n'a jamais démontré quoi que ce soit de toute façon. Mais il est évident qu'ils ont d'abord et avant tout le sentiment, comme les footballeurs de 82, de s'être fait voler tout simplement au coin du bois, comme on dit.
Arnaud Lecomte, journaliste au journal L'Équipe, spécialiste de basket. Et justement, revenons au match avec une considération technique tout de même. Pouvez-vous nous expliquer, et m'expliquer, parce que je ne suis pas un spécialiste de basket, pourquoi l'arbitre ajoute ces trois fameuses secondes? Parce que dans le récit, on raconte une version simplifiée des événements. Mais par exemple, le temps mort des Soviétiques a-t-il vraiment été réclamé?
On n'a toujours pas la réponse à cette question 52 ans après.
On
l'aura jamais, bien entendu, puisque les acteurs, de toute façon, sont tous partis. Donc, à moins que quelqu'un ait déposé sous serment quelque part un texte qui raconterait tout ça dans le détail avec des vrais témoignages. Non, je pense qu'aujourd'hui, moi, l'idée que je m'en fais, en tout cas, c'est qu'effectivement, les Soviétiques ont demandé un temps mort. Le problème, c'est qu'il n'a pas été entendu par l'arbitre à ce moment-là, par la table de marque dans un premier temps, qui doit réceptionner la demande de l'entraîneur. Tout ça se passe en très peu de temps, dans une ambiance, et vous imaginez bien, en fin de match
brillante,
comme ça, avec un match serré, puis surtout très tendu, où tout le monde est à cran. C'est un stress complet, quoi. Donc je pense qu'il y a eu des petites erreurs humaines qui sont compréhensibles, mais qui ont des conséquences très graves. Donc savoir si le temps mort a été accordé... Il n'a pas été accordé. Ce qui est sûr, c'est qu'il a probablement été demandé.
Alors, il faut se souvenir aussi, nouveau petit détour par la géopolitique, qu'en 1972, les Soviétiques viennent d'essuyer une grave défaite dans la conquête spatiale. C'est-à-dire qu'Apollo finit son programme en décembre 72 avec Sherman, Apollo 17. Et pour les soviétiques, c'est vraiment, vraiment une très, très grosse défaite. Donc ça, forcément, ça pèse quand même. Même si ça pèse moins sur les joueurs, ça pèse sur l'ensemble, sur l'ambiance, sur le public, et puis en résonance internationale.
Oui, ce qui est sûr, c'est que ces matchs-là entre URSS et USA dépassent bien entendu, vous l'avez expliqué, le cadre du sport. On est plutôt dans une période de détente entre les deux grands à ce moment-là. Oui. Bon, il y a eu les accords SALT 1 qui ont été signés,
Nixon-Brejnev.
On est un petit peu plus dans une politique de détente, mais les Jeux de 72 vont un petit peu raviver certaines... Bon, surtout quand on se retrouve face à face dans une finale olympique, avec les égos des uns et des autres, avec les enjeux que vous avez mentionnés. En effet, les Soviétiques voulaient impérativement cette 50e médaille d'or. Ça paraît un peu puéril aujourd'hui, mais effectivement, à l'époque, ça avait vraiment une signification forte.
La bataille d'image est très forte.
La bataille culturelle, bien sûr. Oui. Il y a d'ailleurs un exemple assez étonnant il y a un revival quelque part, 8 ans après, aux Jeux de 80, il y a des Jeux d'hiver qui se déroulent à Lake Placid. Lake Placid, c'est où? C'est aux États-Unis, dans l'État de New York. Que se passe-t-il à Lake Placid? Il y a une finale du tournoi. Enfin, c'est même pas une finale, d'ailleurs, c'est le dernier match. Voilà, techniquement, le dernier match du tournoi olympique de hockey sur glace. Et en hockey sur glace, la rivalité aussi est forte. Sauf que les rôles sont inversés. Les invincibles, c'est les soviétiques. Mmh. Et ceux qui cherchent enfin à gagner cette finale olympique, ce sont les américains. Et ils finissent par l'emporter. C'est comme ça qu'ils ont pris quelque part leur revanche sur l'URSS, sur 72, quoi.
88, qu'est-ce qui se passe-t-il pour les américains? Deuxième défaite?
Deuxième défaite, c'est de la première confrontation depuis 72. C'est à Séoul, oui, en Corée du Sud. C'est effectivement 16 ans après, c'est incroyable, on n'imaginait pas ça. Mais 16 ans après, ils se retrouvent seulement, puisqu'il y a eu 2 boycotts d'affilée. Donc ils se retrouvent en demi-finale cette fois, et les Américains cette fois sont battus à plate couture par les Soviétiques. 2 fois de suite, ça commence à faire mal un petit peu.
Ouais, oui, mais après 88, arrive 92. Ah. La Dream Team américaine, on ne peut pas parler de basket sans dire un mot de la Dream Team 92.
Mais que s'est-il passé donc entre-temps pour qu'il y ait une Dream Team en 1992? C'est qu'effectivement, la défaite américaine en 88, c'était encore des joueurs universitaires, donc non professionnels, mais on était arrivé un petit peu au bout de cette logique-là. La Fédération internationale vote dans la foulée pour l'autorisation des joueurs professionnels de NBA, c'est aussi du business, c'est aussi du marketing, tout ça. Et donc en 92, effectivement, il n'y a plus d'Union soviétique en 92, c'est fini.
Depuis un an.
Puisque effectivement, le système s'est effondré. Donc on n'a plus qu'un conglomérat de pays indépendants. Et les Américains montent une énorme équipe, la Dream Team, qui va rassembler peu ou prou les 12 meilleurs joueurs du monde de cette année-là.
Est-ce qu'on sait si en Russie on parle encore de ce match de 1972 ou est-ce que c'est oublié parce que l'URSS est devenue la Russie, notamment?
Ah non, c'est pas oublié du tout. Ça reste une des plus grandes victoires, une des plus grandes fiertés du sport de l'ex-URSS, mais aujourd'hui du sport russe, évidemment, parce qu'on a transféré tout ça. Et il y a 6 ans, 2017, 7 ans bientôt, un film de fiction s'appuyant énormément sur cette histoire est sorti en Russie, pardon. Et c'est, paraît-il, quelques mois après sa sortie, c'était le plus gros succès de l'histoire du cinéma post-soviétique. Et il raconte, c'est d'ailleurs très romancé, il raconte, en prenant beaucoup de liberté avec la réalité, l'histoire de cette équipe soviétique championne olympique en 72.
Bien, Arnaud Lecomte, il me reste à vous remercier. À bientôt.
Merci à vous.
Si vous avez aimé ce podcast, vous allez adorer toute une sélection d'émissions de Radio France sur les Jeux Olympiques pour continuer à faire les Jeux avant les Jeux. Autour des Jeux, ce sont des podcasts à écouter sur l'appli Radio France ou sur le site radiofrance.fr.